On est dans une semaine un peu spéciale puisque nous avons fêté la solennité du Christ roi dimanche dernier et dimanche prochain nous rentrons dans l'Avent. Et je me suis dit c'est un peu providentiel cette liturgie de cette semaine parce que en fait on a déjà Jésus qui est roi de l'univers, qui règne sur notre cœur si on le désire, si on le souhaite. Il nous a déjà acquis la victoire et ça correspond un peu à toutes ces adorations qui sont faites dans le monde entier où des gens acceptent de venir passer une heure devant Jésus pour se tenir devant lui au nom de tous ceux qui ne croient pas, qui sont souffrants, qui sont dans la difficulté. Et je me disais, cette solennité du Christ roi, c'est pour nous redire, nous encourager que Jésus est vraiment le grand vainqueur et qu'on n'a rien à craindre. Au contraire, on a à s'encourager les uns les autres pour continuer cette prière d'adoration, pour venir fidèlement chaque semaine au pied de Jésus. Et c'est une intercession qui peut-être ne porte pas beaucoup de fruits à nos yeux, mais je suis sûre qu'au ciel, quand on verra toutes ces heures qu'on a passées devant Jésus, tous les fruits que cette adoration a portés, on sera très étonnés de voir qu'on a intercédé pour quelqu'un qui, à son tour, a intercédé pour nous. Et ça sera cette grande chaîne d'adoration perpétuelle qu'on verra au ciel et tous ces beaux fruits dont on sera témoin. Et puis, d'un autre côté, il y a l'Avent qui nous montre qu'on va rentrer dans ces semaines qui nous préparent à Noël comme des pauvres, en fait, comme Jean-Baptiste qui nous montre le chemin, qui est humble et qui est là pour annoncer Jésus, qui est là pour montrer que Jésus passe devant lui, qu'il n'est pas digne de dénouer la courroie de ses sandales, et qu'il est là juste pour montrer c'est le Seigneur. Et c'est ces deux aspects-là que je voudrais voir ce soir, un peu pour dire qu'on est des adorateurs missionnaires. Tout d'abord, ce qui nous motive forcément pour aller à l'adoration, et d'un autre côté, quelque chose qui peut un peu nous guetter, c'est cette habitude, cette accoutumance d'aller chaque semaine à l'adoration. On peut s'habituer malheureusement. Et le père Cantalamessa disait que c'était vraiment le grand péché contre l'Eucharistie, c'est cette accoutumance, le fait qu'on s'habitue à aller rencontrer Jésus qui est là présent devant nous. Et pour ne pas s'habituer justement, il faut redécouvrir que ce qui nous motive, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on a pour Jésus et c'est surtout l'amour que Jésus a pour nous. C'est ça qui fait qu'on peut se ressourcer, revenir avec un élan nouveau auprès du Seigneur. C'est trouver les moyens, être intelligent pour que cet amour qu'il y a dans notre cœur reprenne une flamme nouvelle, une flamme vive, redevienne comme si c'était pour la première fois qu'on allait rencontrer Jésus. Vous devez sûrement connaître Bienheureux Carlo Acutis, que j'aime beaucoup et que je serais très intéressée de vous partager, mais on n'a pas le temps ce soir. Mais en tout cas, ce qui m'a frappé chez lui, c'est que le jour de sa première communion, il a promis à Jésus d'aller à la messe tous les jours et de prendre un temps d'adoration tous les jours. Et je pense que c'est quelque chose qui peut nous aider, de dire que ce jeune, il a pris cette décision-là et que nous, si on l'a déjà prise, alors peut-être pas d'aller à la messe tous les jours, mais en tout cas de reprendre cette décision aujourd'hui, d'avoir un très grand désir de se remobiliser pour cette heure d'adoration qu'on a choisie chaque semaine. Et c'est ça qui va faire qu'on va encourager les autres, parce que cette chaîne d'adoration perpétuelle, évidemment, elle est portée par celui qui est avant nous, qui vient adorer avant nous, et celui qui vient adorer après nous. Le deuxième aspect, après l'amour, c'est la confiance. La confiance, faire confiance au Seigneur, mettre toute notre confiance en lui. Je vais vous raconter un petit témoignage par rapport à l'adoration. J'ai fait le pèlerinage des mères de famille à Cotignac cette année, au mois de juin. Et je ne sais pas comment ça se fait dans les autres groupes, mais dans notre groupe, en général, le samedi soir, il y a une nuit d'adoration. Et au moment du dîner, il y a une petite feuille qui circule entre toutes les mamans, et puis on invite les mamans à prendre une heure d'adoration. Et la feuille arrive à moi, et alors là, j'avais entendu qu'il y avait des mamans qui n'étaient pas tellement pour, des gens qui étaient, des mamans qui étaient fatiguées et tout ça. Je priais dans mon cœur et vraiment je sentais que bon, ça allait être difficile. Et la feuille arrive à moi et je vois un grand trou de minuit à 4 heures du matin. Et les prêtres avaient dit surtout, nous on va se coucher à 11 heures et pas de question de se lever la nuit. Ils avaient raison, ils étaient un peu fatigués. Donc c'est ça ou alors pas d'adoration perpétuelle. Et alors je regarde cette feuille très étonnée, je me dis bah, pas de peau parce que la nuit d'adoration n'aura pas lieu parce que entre minuit et 4 heures du matin il va y avoir un problème. Et puis j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je fasse confiance. Alors j'ai dit bah écoutez très bien, moi je prends de minuit à 4 heures du matin. Et alors tout le monde m'a regardé en me disant elle est folle. Et j'ai dit, bah écoutez, moi, de toute façon, je ne vais pas dormir. Alors, ne pas dormir dans mon sac de couchage, je préfère aller dormir devant Jésus. Et là, il y a deux mamans qui me connaissent bien, qui sont venues, qui m'ont dit, bon, alors nous, on prend une heure. Et puis une deuxième qui a dit, bah, alors moi aussi, je prends une heure. Et en fait, il me restait pratiquement, au final, une heure et demie d'adoration, un peu trop peu pour moi. Et le matin, ce qui était très étonnant, c'est que le matin, au petit déjeuner, j'entendais toutes les mamans qui disaient qu'elles s'étaient toutes levées, minimum une heure et demie, maximum deux heures. Et en fait, elles avaient toutes été auprès de Jésus. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il faut faire confiance. Et quand on fait confiance à Jésus, le reste, ça se passe toujours très très bien. Parce qu'en fait, le Seigneur attire, l'amour de Jésus attire beaucoup de gens. Et il suffit qu'il y ait quelques personnes qui soient motivées et qui posent un acte de foi pour que les autres aient envie d'y aller aussi. Et puis, le dernier aspect, c'est l'humilité. Il me semble que Jésus nous a promis qu'il était là avec nous jusqu'à la fin du monde, qu'il était présent dans tous les tabernacles et qu'il veillerait sur nous. Et ce lieu de l'adoration, c'est un lieu pour nous pour rester humble. Et je pense que c'est un beau fruit de la prière, c'est l'humilité. Parfois, on fait des heures d'adoration, on se demande qu'est-ce qu'on fait là ? On se dit, il y a tellement d'autres choses à faire ailleurs. Et puis, on reste. Et c'est vrai que souvent, c'est le combat, c'est la lutte. On pose des actes de foi, on essaie de dire au Seigneur qu'on l'aime, on essaie de trouver des petites prières dans notre poche, on essaie de lire un passage de l'Évangile. Mais on sent bien que c'est très, très dur et que sensiblement, il ne se passe rien du tout. Et je pense que c'est vraiment une école de l'humilité, l'adoration. Parce que on se met aux pieds de Jésus, on se met devant lui, et en fait c'est lui qui a choisi l'humilité pour nous rejoindre, c'est lui qui a choisi de se mettre dans une petite hostie blanche, pour qu'on n'ait pas peur de lui, pour qu'on ose aller auprès de lui, et lui il n'a qu'un désir, c'est déverser son amour dans notre cœur. Et c'est cette humilité qui nous attire en fait, pourquoi on revient sans cesse auprès de Jésus. Bah parce qu'on se rend compte que si on n'allait pas puiser à cette source, on serait très orgueilleux, on aurait peut-être envie de dominer les autres, on aurait envie d'imposer notre pouvoir, notre manière de vivre, notre manière d'être, notre manière de penser. Et pourquoi on arrive petit à petit à changer notre cœur ? C'est parce que c'est Jésus qui vient déposer dans notre cœur beaucoup d'humilité, beaucoup de douceur et de la paix. Et petit à petit, on voit que notre cœur se convertit. Alors vous me direz peut-être, ben c'est tout ce que je fais moi, puisque je vais à l'adoration toutes les semaines. J'essaie de faire ce que je peux, j'adore le Seigneur, et c'est vrai que c'est déjà beaucoup, et je vous encourage vraiment à continuer. Le deuxième aspect peut-être, c'est le mystère de Noël. Le mystère de Noël, Jésus et la Vierge Marie ont été vraiment des pauvres par excellence. Ils n'ont pas eu de lieu pour aller habiter. Ils ont cherché un lieu pour vivre, pour que l'enfant Jésus naisse. Et ils ont trouvé une petite crèche. Et je me suis dit, en fait, c'était très beau parce que dans leur pauvreté, ils ont pu accueillir aussi bien les bergers que les mages. Et peut-être c'est ce deuxième aspect qui peut être très important pour nous. C'est cette charité fraternelle entre nous. Vous voyez, s'il y a des équipes d'adoration, s'il y a des gens qui viennent adorer avant, après nous, c'est peut-être pour que se développe entre nous cette grande famille des adorateurs, comme beaucoup de paroisses essaient de vivre, pour qu'on ait ce lien entre nous, des liens tout simples, des gestes d'affection, des gestes d'entraide, du service, et aussi de pouvoir aller en mission ensemble. Le père Benoît a parlé de ça tout à l'heure, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que l'adoration, c'est déjà être missionnaire. Évidemment, on porte devant Jésus tous ceux qu'on aime, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont blessés, mais il y en a tellement qui voudraient être devant Jésus, qui voudraient venir l'adorer. Et c'est aussi cette mission qui nous est demandée, c'est d'aller chercher tous ceux qui aimeraient bien connaître Jésus, tous ceux qui aimeraient bien venir l'adorer, tous ceux qui aimeraient bien connaître cet amour de Jésus dans leur cœur, tous ceux qui sont blessés, qui sont en difficulté, qui aimeraient bien découvrir que Jésus, il est là aussi pour eux. Et je pense que c'est peut-être la deuxième chose qui va donner un élan à notre adoration, c'est d'aller en mission. D'aller en mission, ça peut être de différentes manières. Je connais une paroisse qui essaie de mettre un lien entre les malades dans les hôpitaux ou les personnes âgées dans les maisons de retraite et les adorateurs. C'est pas si facile que ça. Mais ça, c'est à vous de trouver des moyens pour faire qu'il y ait un lien entre ces personnes. C'est très important. Si vous veniez adorer en portant dans votre cœur une personne que vous avez rencontrée à la maison de retraite, des gens qui sont souvent très seuls, qui passent des heures et des heures seuls, si vous alliez leur dire que vous les conduisez à Jésus, que vous les portez devant Jésus, je pense que ça changerait leur solitude et vous, ça changerait aussi votre adoration. Alors, quoi dire par rapport aux malades ? Il y a beaucoup de malades aussi qui aimeraient porter leur souffrance devant Jésus, qui aimeraient que Jésus vienne les rencontrer. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas, et peut-être aussi parce que leur souffrance est trop dure, trop difficile, et qu'ils n'osent pas la porter devant Jésus. C'est votre rôle aussi d'intercesseur, de porter ces personnes malades devant Jésus et d'intercéder pour eux. Il y a aussi des petits gestes dans le quotidien. Je reparlais tout à l'heure des équipes d'adoration. C'est important que vous vous connaissiez, que vous vous rencontriez, que vous puissiez échanger entre vous des grâces que vous avez reçues, mais aussi de pouvoir vous rendre service, de pouvoir aussi vous remplacer. Parfois, on ne sait pas très bien comment demander à quelqu'un de venir nous remplacer à l'adoration. C'est toujours difficile. On est un peu pudique, on ne sait pas comment faire. Essayons de demander. Je me souviens de quelqu'un qui était militaire et qui ne pouvait pas assurer son heure d'adoration à Toulon. Il m'avait raconté qu'il avait osé demander à sa secrétaire. Il avait dit, voilà, écoutez, je suis désolée, je ne peux pas aller à l'adoration la semaine prochaine, est-ce que vous accepteriez de venir me remplacer à l'adoration ? Et elle avait dit, je ne sais pas, je vais réfléchir, vous me demandez quelque chose de difficile et tout ça. Donc il lui a expliqué, hein, bien sûr, il a expliqué ce que c'était, tout ça. Et la semaine suivante, elle est revenue, elle a dit, non, je ne me sens pas de vous remplacer à l'adoration, mais sachez que j'ai été très touchée par votre demande. Et ça restera dans mon cœur. Et bien, j'ai trouvé que c'est un témoignage magnifique. La personne était libre de dire oui ou non, mais en tout cas, elle a été touchée qu'on lui demande, qu'on pense à elle pour faire ce service qui, à ce moment-là où elle en était, ça l'a dépassée et elle se sentait peut-être pas digne de faire ce service, mais en tout cas, elle a été touchée qu'on lui demande. Combien il y a d'exemples de gens qui ont été évangélisés parce qu'on leur a demandé de les remplacer à l'adoration. Et ça, c'est demander un peu une audace de notre part. Et en même temps, ça permet à des gens de découvrir qui est Jésus, de venir adorer. Alors bien sûr, il ne faut pas les laisser comme ça tout seuls. Il faut peut-être les accompagner la première fois, leur dire qu'on va aller avec eux. Peut-être laisser libre de rester 5 minutes, 10 minutes au départ, qu'ils puissent faire cette expérience de Jésus. Et puis petit à petit, ils vont découvrir ce que c'est que l'adoration, ils vont aimer l'adoration et ils vont peut-être vous remplacer pendant une heure ou plus. Et ça, c'est vraiment de l'évangélisation. C'est une manière de faire connaître Jésus en proposant à des gens de venir auprès de lui. Moi, ça a été une très belle expérience quand j'étais à Vichy. Donc les missionnaires sont venus mettre l'adoration en place, sont venus faire un week-end pour proposer aux gens de prendre une heure d'adoration. Et moi, j'étais très sceptique. J'étais jeune religieuse et tout. Je me disais, voilà, l'adoration dans une paroisse, mais alors c'est évident, ça ne marchera pas, c'est même pas la peine. Et je râlais parce que ça ne se passait pas comme je voulais et tout ça. Et à la sacristie, mon curé m'a regardé, il m'a dit, écoutez ma sœur, maintenant, vous posez un acte de foi et c'est tout. Et alors j'ai dit, ok, bon, très bien, j'obéis et tout. Et le soir, il y a eu 200 personnes qui se sont inscrites pour prendre une heure d'adoration. Ça a été pour moi un témoignage, mais je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours, ça a été incroyable. Et ça ne s'est pas arrêté là, parce que 200 personnes qui s'engagent à l'adoration, vous imaginez qu'après il faut les accompagner, parce qu'il y a des gens qui savaient ce que c'était que l'adoration, il y a des gens qui avaient envie de prier, il y a des gens qui ne savaient pas comment prier, et en plus rester une heure devant Jésus, ça devient un peu compliqué. Et donc il a fallu accompagner toutes ces personnes, et c'était extraordinaire, parce que accompagner des gens en parlant de Jésus et en parlant que de l'adoration, en fait, c'était tout ce que je souhaitais parce que je me suis convertie devant Jésus pendant un temps d'adoration. Et c'était pour moi, au bout de 10 ans de vie religieuse, c'était pour moi un bonheur inouï de se dire que dans une paroisse, c'était possible de mettre l'adoration et d'avoir 200 personnes qui s'engagent à prendre une heure d'adoration par semaine. Et donc, je voudrais vraiment insister pour cette charité fraternelle entre vous. C'est ça qui va faire que si on n'a plus envie d'aller adorer, si on n'a pas assez de courage, si on a des difficultés, si on se sent un petit peu, désemparé ou désespéré, et ben c'est cette communion fraternelle entre vous qui va nous remobiliser. Moi, je me souviens quand j'étais à Vichy, que je me levais la nuit, j'avais pris un créneau de 2 à 3, et il y a des semaines où j'avais vraiment pas envie d'y aller, j'étais fatiguée et tout ça, je me suis dit mais j'y arriverai pas, c'est pas la peine. Et à chaque fois, le mercredi, il y avait quelqu'un qui venait me voir et qui me disait, voilà ma sœur, je sais que vous allez adorer, est-ce que vous pourriez prendre cette attention dans votre cœur en allant adorer, parce que vraiment cette personne en a besoin. Et ça, ben, c'est vrai que ça me donnait chaud au cœur et, je me disais, ben, il faut que j'aille adorer pour cette personne qu'on m'a confiée, je peux pas ne pas y aller. Et c'est vrai que c'était des petits signes du Seigneur pour me donner du courage pour y aller, pour me dire, ben voilà, ton adoration, même si elle est difficile, et ben tu y vas pour cette personne et pour cette personne. Et c'est important aussi peut-être, je ne sais pas comment vous faites ici à Paray-le-Monial, mais il y a des paroisses où ils se donnent des intentions de prière par nuit. Il y a des nuits où ils prient pour les prêtres, il y a des nuits où ils prient pour les malades, il y a des nuits où ils prient pour tous ceux qui évangélisent, vous voyez, chaque nuit a une intention de prière. Et je trouve ça beau parce que, évidemment, on peut changer, hein, on ne garde pas toujours les mêmes intentions, mais je pense que ça peut aussi mobiliser des adorateurs de nuit en se disant, voilà, cette nuit on y va, on va prier pour nos prêtres. C'est quand même quelque chose qui est très moteur et on a envie d'aller prier pour les prêtres, on a envie de les porter encore plus en ce moment, leur dire, voilà, nous on va faire que cette adoration-là, elle soit pour les prêtres, pour leur donner du courage, pour leur donner, leur redonner de la ferveur dans leur vie, leur dire que voilà, on compte sur eux et que il y ait beaucoup de gens qui s'engagent à devenir prêtres. Alors je voudrais vous lire, peut-être que vous connaissez cette prière pour le synode, et il y a une petite phrase, nous on l'a dit tous les dimanches à la messe, avec les paroissiens à la fin de la messe, et je trouve ça très très beau. Il y a cette petite phrase, enseigne-nous vers quel but nous orienter, montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Voilà, c'est vraiment ce que le pape François nous demande pendant ce synode, c'est de marcher ensemble, de faire un chemin ensemble. Et j'aime bien cette phrase, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui devient en chemin, un chemin pour nous. Ça veut dire qu'ensemble, on est toujours plus fort. Ensemble, on peut s'encourager, encore. Ensemble, on peut trouver des solutions, des richesses, on peut s'entraider et on peut marcher ensemble parce que on sait qu'il y a quelqu'un, encore une fois, qui sera avant nous ou après nous et qui va intercéder pour nous. Je voulais aussi vous lire un témoignage d'une jeune fille qui était à l'adoration à Paris, à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, et qui nous avait donné ce témoignage que je trouve très beau. Elle avait un de ses oncles qui était très gravement malade parce qu'il avait fait une chute en ski. Et elle allait prier pour lui devant Jésus. C'était son engagement à l'adoration perpétuelle. Et elle dit cela. « Je rêvais qu'il m'accompagne à l'adoration, mais sachant qu'il a été longtemps en rééducation et qu'il vivait à Bordeaux, le projet était un peu fou. L'autre folie du projet résidait dans nos habitudes familiales. Nous n'avions jamais prié ensemble. Et puis un jour, cet oncle m'a dit « Je viens ». Je ne lui avais rien demandé. Il avait mémorisé le jour et l'heure de mon credo d'adoration et s'était débrouillé pour être à Paris ce jour-là. Nous nous sommes retrouvés dans l'oratoire. Nous avons prié tous les deux, lui, la main sur mon épaule, et moi, totalement chamboulés par la douceur et l'évidence de ce moment. Je n'avais qu'à dire à Jésus, « Voici celui dont je t'ai tant parlé, continue à l'aider. » Cet incroyable moment tisse à présent quelque chose de différent entre mon oncle et moi, quelque chose de très profond et de très simple. Et le plus important, c'est que lui a pu continuer à puiser de la force à la source pour continuer à se battre et à retrouver ses gestes d'avant. Voyez comme quoi on peut avoir des désirs fous qui se réalisent et ayons des désirs fous hein, de pouvoir se dire que telle ou telle personne un jour vous l'accompagnerez devant Jésus à l'adoration. Et puis ce que je voudrais vous lire aussi, il y a des très belles phrases de Sainte Mère Teresa que je voulais vous lire, mais peut-être celle-là. Le temps que vous passez avec Jésus au Saint-Sacrement est le meilleur temps que vous puissiez passer sur terre. Chaque instant passé avec Jésus approfondira votre union avec lui, rendra votre âme immortelle, plus glorieuse et plus belle au ciel, et contribuera à apporter une paix éternelle sur terre. Qu'est-ce qui sauvera le monde ? Ma réponse est la prière. Il faut que chaque paroisse se tienne au pied de Jésus dans le Saint-Sacrement, dans des heures d'adoration. On devrait fortement appuyer l'adoration perpétuelle avec exposition du Saint-Sacrement. Jésus s'est fait pain de vie pour nous donner la vie, nuit et jour. Il est là. Si vous voulez vraiment grandir en amour, revenez à l'Eucharistie. Revenez à l'adoration eucharistique. Il nous faut tisser nos vies autour de l'Eucharistie. Fixez les yeux sur lui, qui est lumière. Placez vos cœurs près de son divin cœur. Cherchez-le avec ferveur. Par Marie, cause de notre joie, vous découvrez nulle part au monde que vous êtes mieux accueillis qu'auprès de Jésus Eucharistie. Il est vraiment là en personne à vous attendre. Et puis, à cette approche de Noël, peut-être que on peut se souhaiter à chacun d'entre nous de faire cette expérience que la petite Thérèse a fait le jour de Noël. Voilà ce qu'elle dit. L'ouvrage que je n'avais jamais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais jamais senti vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je suis heureuse. Et puis peut-être qu'il y a un document qui pourrait nous aider. C'est le document qu'a écrit le pape François pour la journée des pauvres. Je cherche la date. C'était le 14 novembre, donc il y a 15 jours. Il a écrit un texte sur le thème « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous ». Et je me dis, c'est peut-être, comme adorateur, un texte qui pourrait nous aider, parce que Jésus est le pauvre par excellence, c'est celui qu'on doit venir adorer comme la priorité, comme celui qu'on doit aimer de tout notre cœur, de toute notre intelligence et de toute notre force. Mais on a aussi à, comme je vous disais tout à l'heure, à se faire pauvre pour pouvoir rencontrer les pauvres. Et voilà ce qu'il dit à la fin de son texte. Servir efficacement les pauvres provoque l'action et permet de trouver les formes les plus appropriées pour relever et promouvoir cette partie de l'humanité trop souvent anonyme et sans voix, mais qui a imprimé en elle le visage du Sauveur qui demande de l'aide. Et il conclut en disant « Les pauvres sont au milieu de nous, comme ce serait évangélique si nous pouvions dire en toute vérité « Nous sommes pauvres, nous aussi ». Et c'est seulement de cette manière que nous réussissons à les reconnaître réellement et les rendre partie intégrante de notre vie et instrument de salut. » Voilà, demandons en cette période qui va nous préparer à Noël, demandons à Jésus de rendre notre cœur pauvre pour pouvoir accueillir Jésus qui s'est fait pauvre parmi nous et accueillir aussi tous les pauvres que Jésus mettra sur notre chemin. Amen.